Vous écoutez France Culture. Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Le génie de l'hédonisme, 8e année, la fabulation freudienne Sigmund Freud. Aujourd'hui, les questions des auditeurs au CDN de Normandie à Michel Onfray.
Bonsoir Monsieur Onfray, tout en haut de la salle, debout.
D'accord.
Je tenais tout d'abord à vous remercier pour cette nouvelle année que vous nous consacrez et à l'ensemble aussi de l'Université populaire avec les gens de l'économie ou que ce soit ou psychanalyse.
C'est moi qui vous remercie. Pour vos merci, d'abord, effectivement, c'est une aventure collective, hein, l'Université populaire. Donc, même si j'ai lancé tout ça en 2002, ce sont tous mes amis qui la rendent possible. Et de fait, vous aurez pu constater qu'en même temps que l'Université populaire propose ce cours sur Freud, j'ai demandé à mon ami psychanalyste Myriam Ilouz de faire un cours de psychanalyse pour que vous puissiez vous faire par vous-même une idée, que vous puissiez aller voir ce qu'est la psychanalyse. Donc je crois au débat, je crois au dialogue, je ne crois pas au fait qu'il faudrait asséner des vérités en disant « voilà, c'est comme ça, point à la ligne ». Je pense que c'est à vous de faire ce travail en allant et en venant. Et de fait, vous avez parlé des séminaires économie ou littérature, ou etc. Enfin, je crois qu'effectivement, il y a matière pour chacun à se forger des opinions et à penser par lui-même.
Et moi, j'aurais souhaité aborder une petite question au niveau de la psychiatrie d'aujourd'hui. Et j'ai le sentiment que la psychologie commence à prendre beaucoup d'ampleur dans notre société. J'ai le sentiment que c'est un petit peu dû à une individualisation de notre société encore, je vais redire, parce que on a dû de plus en plus de mal à s'exprimer autour de nous. J'ai le sentiment qu'on a un besoin de voir une personne inconnue pour pouvoir exprimer nos faiblesses, nos doutes ou nos inquiétudes ou diverses choses.
Votre intervention suppose que nous puissions réfléchir sur ce qui distingue psychologue, psychiatre, psychothérapeute et psychanalyste. Ça, c'est extrêmement important parce que je pense que cette analyse historique de la psychanalyse, je la fais au profit de la psychologie. Je souhaiterais que la psychologie puisse réapparaître comme une discipline qui ne soit pas étouffée par la psychanalyse. La psychanalyse existe, c'est comme l'homéopathie, on peut y croire, etc. Je ne suis pas contre les médecines alternatives, mais il faut qu'on puisse éviter de serrer à la gorge d'autres disciplines comme la psychologie. Si nous restons dans la logique de l'étymologie, la fameuse psyché et le logos, l'âme et le discours sur l'âme, le psyché, c'est le même mot pour papillon, pour dire papillon en grec. Et cette âme, je l'ai toujours défendue. J'ai toujours dit que nous étions porteurs d'une âme. Et on me dit, ah bon, vous qui n'êtes pas chrétien, c'est pas parce qu'il y a eu une opéa du christianisme sur l'âme et qu'il faudrait imaginer qu'il n'y a d'âme que chrétienne. L'idée d'une âme immatérielle qui serait immortelle, éternelle, qu'on pourrait punir, et qui ne serait pas matérielle mais qui pourrait quand même aller dans le feu, et puis ou qui pourrait être heureuse et jouir. Enfin, c'est un peu problématique quand même le statut de l'âme dans une logique qui ne serait pas celle de la réincarnation, de la métempsychose, de la métensomatose. Qu'est-ce que c'est que ce corps glorieux avec lequel on est censé ressusciter ? Chez les chrétiens, ça fait marrer les Grecs, ça. C'est-à-dire quand vous avez saint Paul qui vient à Athènes sur l'Agora et que les Grecs sont polythéistes et qu'ils ont des dieux à ceci, à cela, les dieux de la fortune, les dieux du soleil, les dieux de la guerre, les dieux de l'amour, ce genre de choses. Ils ont un temple aux dieux inconnus. Comme ça, ils sont tranquilles. Ils se disent, s'il y en a un auquel on n'a pas songé, eh bien, on y a songé quand même. Et saint Paul arrive en disant, ah, mais c'est le mien, le dieu inconnu. Et c'est le seul vrai. Et tout le monde rigole sur l'Agora. Voyez l'épître aux Éphésiens, voyez les épîtres aux Corinthiens, voyez les textes concernant Paul de Tarse. Et effectivement, il y a cette idée que la résurrection de la chair, ça fait marrer les Grecs. Ce n'est pas pensable dans l'esprit d'un Grec. Même s'il y a de la métempsychose, de la métensomatose chez Platon ou chez Pythagore, il n'empêche que la résurrection de la chair, ça ne passe pas. Donc il se fait que effectivement vous avez une définition. Alors on connaît l'histoire. Saint Paul, on rigole de lui, de son vivant, et puis Constantin arrive, convertit l'Empire au christianisme, le christianisme devient religion officielle. Donc pour le coup, ceux qui rigolaient ne rigolent plus, parce que les persécutés deviennent des persécuteurs, et la doctrine de la résurrection de la chair devient doctrine officielle. De sorte que l'âme devient une espèce de dogme dans cet empire, et l'âme, elle est immatérielle, et c'est la fameuse âme chrétienne. Elle va être théorisée par saint Augustin, entre autres, et puis par tous les pères de l'Église qui nous disent, voilà, l'âme, c'est ça. Moi, je dis non, je ne suis pas chrétien, je suis franchement athée, mais l'âme existe. Et elle existe même chez des gens comme Lucrèce. Si vous prenez Lucrèce, c'est même encore plus subtil que ça, c'est-à-dire qu'il y a des étages, on distingue l'âme et l'esprit chez Lucrèce, et pourtant Lucrèce est un hyper-matérialiste, un ultra-matérialiste, encore que, il faudrait supprimer hyper et ultra-matérialiste, ça suffit. Il n'y a que de la matière, et pourtant il y a de l'âme, parce que l'âme est matérielle. Donc je pense qu'on doit pouvoir, quand on parle de psychologie, de psychiatrie, de psychanalyse, etc., quand on utilise le mot psyché, le mot grec, l'âme, on doit pouvoir l'utiliser dans une perspective post-chrétienne ou non-chrétienne, pas forcément anti-chrétienne, mais dans une perspective qui ne soit pas chrétienne. L'âme existe, elle est, soyons spinozistes pour le coup, et ça pourrait nous permettre de nous sauver dans cette aventure, elle est ce qui enveloppe le corps. Spinoza nous dit l'âme, c'est ce qui enveloppe le corps. Et on pourrait très bien imaginer qu'un matérialiste, ce que je suis, puisse renvoyer à cette âme-là en disant, mais après tout, c'est ce qui enveloppe le corps de chacun d'entre vous. Chacun ce soir, là, est enveloppé d'une âme, enfin, est porteur d'une âme qui enveloppe son corps et qui est la vérité de son corps. Donc on n'est plus du tout dans l'opposition, l'âme qui est parfaite, fantastique, merveilleuse, formidable, fragment de Dieu, morceau de Dieu, parcelle de Dieu en nous, et puis le corps, détestable, matière, etc. Soma, sema, disaient les Grecs, c'est-à-dire le corps est un tombeau, cette espèce de jeu de mots quasiment pré-freudien, mais on vous dit, votre corps est un tombeau pour cette perfection qui est votre âme. Il faut vous détacher de votre corps, dit Platon, pour que votre âme puisse s'unir à Dieu. Parce que c'est une parcelle du divin qui est en vous. Et quand vous aurez méprisé de votre corps, quand vous aurez méprisé votre chair, quand vous aurez nié votre vie terrestre, alors vous aurez pu vous unir à Dieu. Chez Plotin, ça donne ça, les hypostases, on s'unit à l'imbien, on a méprisé son corps, on a méprisé sa chair, et on connaît des extases d'union divine, et la vérité de cette aventure, c'est la jubilation mystique, entendons-nous bien. Il faut faire avec ça. Ça fait quand même 15 siècles que la doctrine officielle, ça reste ça. On a tous plus ou moins eu droit à du catéchisme ou à ce genre de choses dans lequel on nous a dit que nous étions porteurs d'une âme et que l'âme, elle était pécheresse. Elle était porteuse d'un péché originel. Chez Freud, vous verrez, le péché originel, c'est le complexe d'Œdipe, c'est le meurtre du père dans la horde primitive. C'est la même chose. Et il faut faire avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on va se débrouiller avec un péché pareil? La psychologie, elle est l'occasion de vous dire que cette âme, elle n'est pas l'âme des chrétiens, qu'elle n'est pas la psyché des Grecs qui serait susceptible d'être réincarnée dans des corps. Tout ça est très, très indien. C'est de la pensée shivaïste, c'est de la pensée hindouiste. Enfin, toute cette pensée-là, toute cette pensée grecque, elle procède de ce courant-là. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on tourne la page de ça en disant « réhabilitons une psyché, une âme païenne ». Réhabilitons une âme matérielle, réhabilitons une âme spinoziste, qui serait donc ce qui enveloppe le corps, et réactivons la psychologie. Je suis pour une réactivation de la psychologie, je suis pour le fait que la psychologie se remette à respirer et qu'elle ne soit pas considérée comme une espèce de sous-science à l'ombre ou de sous-discipline à l'ombre de la psychanalyse qui, elle, dominerait la totalité de ce secteur-là. Donc le psychologue, c'est celui qui, logos, hein, qui tient un discours sur l'âme. Ça, c'est une chose. Le psychiatre est celui qui soigne cette âme, mais pas forcément avec une doctrine particulière. Le psychiatre est celui qui peut recourir, et qui recourt même la plupart du temps, à des médicaments, qui considère qu'il y a des substances, que l'âme, ça procède d'un cerveau, d'un encéphale, de neurones, de matière, et que vous avez des neurotransmetteurs, et que vous avez un certain nombre de substances, et que parfois, on a découvert qu'il y avait des manques de substances ou des excès de substances qui pouvaient justifier que vous pouviez être déprimé, que vous pouviez être euphorique, que vous pouviez connaître des symptômes ou ce genre de choses. Donc on considère dans la psychiatrie qu'un discours accompagnant peut aussi produire des effets, mais que vous pouvez avoir aussi besoin d'un certain nombre d'antidépresseurs, d'anxiolytiques ou de médicaments qui sont censés modifier la biologie de l'âme ou la chimie de l'âme. Vous avez des psychothérapeutes qui, au sens large du terme, sont des gens qui prétendent guérir les affections de la psyché et qui peuvent, là, pour le coup, être le meilleur comme le pire, parce que vous avez aussi pas mal de charlots. Je vous renvoie à la revue Psychologie aux 20 dernières pages qui sont autant d'occasions de faire l'éloge de la réflexologie, de tout un tas de choses qui, effectivement, supposent, et j'en arrive plus directement à la réponse à votre question, supposent qu'il faut répondre au malaise dans lequel nous nous trouvons. Et la psychologie, la psychiatrie, etc., c'est souvent facile pour permettre les réponses aux questions que nous nous posons. Il y a eu pendant très longtemps le triomphe des religions qui ont été autant de solutions clés en main. On vous disait, vous avez une question, nous avons la réponse c'est Dieu. C'est pas compliqué. Si vous posez des questions sur le sens de la vie, la mort, sur l'amour, sur etc., c'était Dieu. À chaque fois que vous aviez une question, la réponse était Dieu. Comme ça, c'est réglé. On vous éduque à ça, c'est le discours dominant. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a des bûchers, on vous installe là-dessus. 1600, Giordano Bruno, vous connaissez l'histoire, pas intérêt à moufter, la vérité, elle est là, et ça dure un certain temps. Et puis, vous avez des gens qui disent, pas si sûr que ça, vous avez Montaigne qui commence à douter un petit peu, vous avez les libertins derrière, qui la Motte Le Vaillé, on a fait cours sur eux, Cyrano de Bergerac et quelques autres qui disent, bon, ça peut exister, Dieu, puis de toute façon, Dieu en France, c'est le catholicisme, quoi. Alors, bon, d'accord, on est catholique. Mais il y a autre chose. Donc on avance avec le fidéisme, on a une position par la suite qui va devenir le déisme. Le déisme, Dieu existe, mais il ne s'occupe pas des hommes. Et vous avez Voltaire, vous avez presque tout le XVIIIe siècle, qui n'est pas un siècle athée, contrairement à ce qu'on dit, hein, mais qui est beaucoup un siècle déiste. Et puis vous avez l'athéisme, alors Méliès avant, qui est le premier, qui est le génie de tous, mais, et puis d'autres qui nous ont dit « non, il n'y a pas de Dieu, à l'évidence ». Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut penser les choses, il faut penser les choses ici et maintenant. Donc le christianisme cesse d'être un discours officiel, et puis quand on décapite le roi, qui est le représentant de Dieu sur terre et que Dieu ne bouge pas, on se dit, il y a quand même un problème. Et, ou il n'a rien vu, Dieu, ou il n'existe pas, ou on commence à douter. Et il y a une espèce de début de décadence, je dirais, à l'endroit du christianisme comme religion dominante, officielle, etc. Et on commence à considérer que, bah, finalement, peut-être qu'en dehors du christianisme, il y a des vérités qui sont susceptibles d'être entendues aussi. Et puis, vous avez des moments de déchristianisation, le socialisme européen du XIXe siècle, vous avez un certain nombre d'informations historiques, la Première Guerre mondiale, qui est une boucherie, la Shoah, le nazisme, les camps de concentration, Auschwitz, la découverte de toutes ces choses-là, on commence à douter de Dieu, de la vérité de Dieu, de la puissance de Dieu. Et puis, vous avez une espèce de délitement du christianisme qui fait qu'on peut imaginer qu'une partie de mai 68 achève cette aventure et que, ben finalement, on a réglé le problème avec le christianisme, sauf que les questions demeurent et on n'a pas les réponses. On n'a plus les réponses. Âge d'angoisse. On a la même chose avec le marxisme, qui un temps a été une idéologie de remplacement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème, bourgeois, ouvriers, patrons, prolétaires, lutte des classes, révolution, résolution du péché originel qu'est la propriété privée par l'abolition de la propriété privée, par l'appropriation collective des moyens de production. Et puis tout ça a été fantastique, merveilleux, formidable. Et vous avez des gens qui ont souscrit à cette religion particulière, à cette idéologie qui consistait à dire « vous avez une question, nous avons la réponse. Vous n'avez pas de question, on a la réponse quand même ». Et puis il y a eu le goulag, et puis il y a eu ce que l'histoire nous a appris. Il y a eu Pol Pot, il y a eu Mao, il y a eu, enfin pour les gens qui avaient un peu d'esprit critique, on pouvait lire les textes de Jean Grenier sur l'essai sur l'esprit d'orthodoxie, le maître d'Albert Camus, le professeur de philosophie d'Albert Camus, on pouvait lire L'homme révolté, bien sûr. Et de fait, il y a un moment où voilà, on ne croit plus à la révolution, on ne croit plus au marxisme, et puis même le Parti communiste ne croit plus à la lutte des classes ou à la dictature du prolétariat. Donc vous vous dites, deuxième effondrement de ce que Lyotard appelait les grands discours. Grand discours chrétien, grand discours marxiste, puis vous en avez eu quelques autres, grand discours structuraliste. Et nous sommes aujourd'hui vraiment dans un âge d'angoisse. Dodds avait écrit un livre qui s'appelait « Chrétiens et païens dans un âge d'angoisse » pour expliquer comment le christianisme était arrivé à la fin de l'Empire romain. Et de fait, cet âge d'angoisse qui fut le moment d'articulation entre la fin de l'Empire chrétien, romain, et le début de l'Empire chrétien, il ressemble étrangement à notre époque. Sur un siècle, deux siècles, ça court sur un siècle ou deux siècles, ce genre de choses. Je pense que nous sommes dans cette configuration-là, avec une brutalité libérale qui n'aura échappé à personne. Le règne de l'argent, il faut être beau, il faut être fort, il faut être puissant, il faut être violent, il faut être brutal, il faut massacrer son voisin, il faut lui passer par-dessus, il faut triompher, il faut être un gagnant, il faut être beau, il faut être jeune, tout ça, voilà. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Et puis même les beaux restent pas beaux, et puis les jeunes restent pas jeunes, et puis les riches peuvent perdre de leur argent. Et puis tout est problématique. Donc l'angoisse, elle concerne tout le monde. Qui est susceptible de tenir un discours sur l'angoisse aujourd'hui ? Psychologue. Celui qui s'occupe de l'âme. Vous avez aujourd'hui donc une espèce de... Alors ce que je vous ai dit tout à l'heure, que Robert Castel appelait ça, lui, le psychanalysme. Vous avez le psychanalysme qui est une espèce de religion d'après la religion. Et vous avez aujourd'hui trois gamins qui ont la diarrhée parce qu'ils ont mangé un truc dans une école, etc. On les hospitalise, principe de précaution, les psychologues sont sur place. Vous avez trois syndicalistes qui disent « il y en a marre, on est exploité, etc., on va faire sauter notre usine », les psychologues négocient. Vous avez un avion qui s'abîme en plein océan Atlantique, les psychologues accueillent les familles, cellules de crise, avec les psychologues. Qu'est-ce que c'est que cette religion nouvelle où on a l'impression qu'il faut faire son deuil, qu'il faut aider à faire son deuil, qu'il faut voir le cadavre pour mieux accepter la mort de ceux qu'on aime et qui ont disparu, enfin, toute cette espèce de vulgate qui donne l'impression qu'effectivement on a des nouveaux curés, des nouveaux prêtres, des nouveaux individus qui vont s'occuper de vos âmes. Simplement, on n'a pas très envie de se mettre entre les mains de tel ou tel dont on a vu qu'ils sont des psychologues sur place quand vous avez perdu tout, votre maison, votre mari, vos enfants, que vous avez retrouvé vos deux enfants pendus et votre mari aussi. Il peut vous raconter quoi, le psychologue ? Que c'est la vie, que c'est dur, que c'est pas facile, que... C'est-à-dire que la fin des grands récits, elle rend possible aujourd'hui la multiplication des petits récits. Simplement, les petits récits, évidemment, c'est facile quand vous arrivez, qu'on vous dit « mais ce monsieur, il est psychologue, donc il a la solution. Écoutez-le, confiez-vous, parlez, ça va vous faire du bien. Ça ne vous fera pas de mal, comme on dit en Normandie. » Et ce genre de choses. Donc, je suis pour éviter deux excès. Cette espèce de trivialisation du discours psychologique et psychologisant, de trivialisation du discours psychanalytique aussi, en disant « ah, mais il a des problèmes édipiens, c'est normal, sa mère l'a regardé de travers, c'est normal qu'il soit... Non, il a des problèmes de lecture, mais c'est normal. C'est un problème... Il est resté longtemps dans le lit de sa mère quand son père, qui est routier, était loin de la maison. Il y a eu un orage un soir, j'ai accepté qu'il vienne dans le lit. Docteur, qu'est-ce que j'ai fait ? Malheur, qu'est-ce que vous avez fait ? Mais la horde primitive... Enfin, toutes ces choses qui vous terrorisent, à nouveau, et qui supposent l'empire... Et le libertaire que je suis a du mal avec les gens qui revendiquent l'empire, au nom d'une discipline ou d'une science, et qui vous disent « tu ne sais pas, mais moi je sais ». Je vais vous dire comment il faut faire. Je vais ceci, je vais cela, etc. Les philosophes, que j'aime du moins, sont des individus qui vous invitent à cartographier la route et à faire votre chemin vous-même. Ce ne sont pas des individus qui vous prennent par la main en vous disant « voilà le chemin qu'il faut faire ». Je crois donc qu'il est bon que la psychologie puisse avoir un boulevard devant elle. Je crois qu'il est bon aussi que la psychologie puisse faire le ménage à l'endroit de ce discours trivial, de cette vulgate psychologisante, de cette vulgate télévisuelle, les psychos ou ce genre de choses, les Ruffo qu'on voit à la télévision et qui vous expliquent pourquoi vous sucez votre pouce trop longtemps, s'il faut pas, combien de temps il faut, ça dépend de la longueur du pouce, enfin ce genre de choses. Vous dites, mais pourquoi cette infantilisation ? Toutes les religions infantilisent. Toutes les religions préfèrent les légendes à la vérité. Toutes les religions vous disent « mais abandonnez-vous, il y a quelqu'un qui sait ». Donc je crois que ce discours-là, le discours de la domination du discours psy, enfin le discours dominant du psy aujourd'hui, qui serait à la fois le curé, qui serait l'ami, qui serait le copain, le compagnon, qui serait le personnage qui vous donnerait des bons conseils, des trucs, quoi, d'une certaine manière. Tout ça, à mon avis, suppose qu'on fasse table rase, qu'on fasse vraiment place nette et qu'on puisse dire « repensons la psychologie, par exemple, à la lumière du traité de psychopathologie de Karl Jaspers ». Voilà un philosophe qui, enfin, il est connu pour être philosophe, mais qui a été aussi psychiatre et bon psychologue pour le coup, puisqu'il a théorisé ces questions-là. Et quand vous lisez ce traité de psychopathologie, vous dites, mais de fait, il y a une psychopathologie qui est extrêmement intéressante à envisager. Autre chose, et ce serait la conclusion de ma réponse, et ce sera probablement la conclusion de l'année, on verra bien, mais il y a un moment où on se dit, mais ce que Freud produit comme type d'effet, ce qui est quand même un effet pervers, c'est d'effacer la différence entre le normal et le pathologique. Alors c'est problématique, le fait qu'on puisse dire « normal ici, pathologique là ». Mais c'est encore plus problématique, me semble-t-il, que de dire « nous sommes tous des malades mentaux ». Il y a de la psychopathologie partout. Et j'ai récupéré ça chez Freud partout. Je vous assure qu'en lisant les 20 volumes de l'œuvre complète, j'ai noté à chaque fois, il y a plein d'endroits où Freud nous dit, en gros, les gens qui ont des problèmes et les gens qui n'en ont pas, c'est pareil. Nous sommes tous des anormaux. Je pense que c'est problématique, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de normes. Je suis prêt à entendre effectivement le fait, le discours qui me dirait « c'est dangereux de dire qu'il y a du normal et du pathologique ». Mais il n'y a pas que des violeurs pédophiles de petits garçons en matière de sexualité. Il n'y a pas que des pervers tordus qui vous réveillent à 3 heures du matin pour vous donner des coups de fil anonymes, etc. Il n'y a pas que ça dans la vie. Ce n'est pas exactement la même chose que des gens qui n'auront jamais fait ça. Donc je pense que l'âge d'angoisse dont je vous parlais tout à l'heure, il est d'autant plus important qu'aujourd'hui, on considère effectivement que la séparation entre le normal et le pathologique, elle n'est pas claire, et qu'elle est peut-être même factice. Ça, je pense que c'est une grande misère. Cette idée déraisonnable qui supposerait que le normal et le pathologique, ce soit la même chose, que nous ne pourrions plus aujourd'hui envisager le problème de la psychologie autrement que sur le terrain de la psychopathologie, est problématique. Je pense que c'est problématique. Voilà pourquoi il faut lire Jaspers, qui n'est pas un livre forcément très facile, mais il faut le lire pour voir qu'effectivement, la psychopathologie n'est pas la psychologie. Et que la psychopathologie est l'un des chapitres de la psychologie. La psychologie, ce n'est pas que ça. Ce sont les mécanismes de l'âme, si on prend la précaution de se souvenir que l'âme, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui enveloppe le corps pour aller vite et pour rester chez Spinoza, et considérer qu'il y a aujourd'hui un discours qu'il vous faut reprendre en main, aux psychiatres, à vous les psychiatres, les psychologues, etc., mais aussi aux citoyens, que sont les parents, que sont les éducateurs, que sont les voisins, parce qu'il y a une espèce de civilisation singulière aujourd'hui qui fait que, si on veut garder les expressions freudiennes et parler de sa deuxième topique quand il nous parle du ça, du moi et du surmoi. Le ça, ce sont les instincts, les pulsions, les passions, etc. On entrera dans le détail de ces choses-là plus tard. Mais le surmoi, c'est tout ce qui réprime ce genre de choses. C'est l'ordre, c'est la loi, c'est ce genre d'instance et qui donne un cadre. Aujourd'hui, notre civilisation est une civilisation du ça. C'est une civilisation qui ignore le surmoi. Tout surmoi est fasciste aujourd'hui. Tout surmoi est fasciste. Un instituteur, un professeur qui dirait non, enlève tes écouteurs et puis arrête de téléphoner pendant mon cours. Ah, facho, nous, enfin, qu'est-ce que c'est ? Vous dites, bah non, quand même pas exactement. Vous dites, le surmoi n'est pas systématiquement fasciste ou fascistoïde. Et l'idée que le ça, ce serait toujours bon, et que les instincts, c'est bon, que les pulsions, c'est bon, que les passions, c'est bon, que c'est toujours ça, qu'il faut s'exprimer, qu'il faut y aller, etc., c'est pas non plus forcément une bonne idée. Il faut retrouver. Je crois, si on veut sortir de cet âge d'angoisse, retrouver une règle républicaine, qui soit vraiment res publica, la chose publique, et que pour retrouver une règle républicaine, il faut en finir avec les vieux surmoi de papa et de grand-papa, il faut en finir avec les surmoi d'avant mai 68, il faut en finir avec les surmoi qui nous disaient qu'un homme était supérieur à une femme, un patron supérieur à ses ouvriers, un enseignant supérieur à ses... Il faut en finir avec ce surmoi-là, mais faut-il en finir avec tous les surmoi ? Réponse non. Réponse non, me semble-t-il. Donc il faut effectivement s'emparer de ce genre de débat en disant effectivement, dans un âge d'angoisse qui est le nôtre, il y a table ouverte, je dirais, pour les psychologues ou les spécialistes de la psyché, les spécialistes de l'âme. Et il me semble bon qu'on laisse un peu de côté les acquis de la psychanalyse pour aller voir du côté des mécanismes psychiques qui font les êtres comme ils sont et répondre à leurs douleurs. Répondre à leur souffrance. Il y a de l'angoisse, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, et il faudrait raccrocher ça à l'histoire, parce qu'il y a des moments où on a le droit d'être déprimé, quand on est exploité, miséreux, quand on vend et qu'on loue sa force de travail parfois à des gens qui n'en veulent pas, mais pour un SMIC de rien du tout ou de misère, quand on est dans des logiques carcérales dans le travail parce qu'on vous humilie, parce qu'on vous fait savoir qu'on peut vous mettre à la porte et que vous avez des enfants, qu'il faut payer les études, qu'il faut ceci, qu'il faut cela, etc. On a le droit de déprimer sans considérer que ça renvoie forcément à des problèmes édipiens, à des problèmes de structure de la psyché depuis la préhistoire. On peut aussi considérer que l'histoire est dépressive, elle est susceptible de nous rendre dépressifs. Et qu'il y a plein de gens qui ont plein d'occasions d'être malheureux, pas bien, d'être dans la misère. Misère sexuelle, misère mentale, misère physique, misère affective, enfin toutes ces misères qui sont des misères historiques, qui sont des misères concrètes. Donc il faut retrouver, je crois, le chemin d'une psychologie combattante, d'une psychologie républicaine, de ce que Georges Politzer, grand philosophe abattu par les nazis, et que Politzer appelait la psychologie concrète. Et cette psychologie concrète, telle que Georges Politzer l'envisageait, c'était quelque chose qui, à mon avis, a fourni un chantier qui serait extrêmement utile de reprendre pour tous les gens que la psychologie intéresse aujourd'hui. Il a été critique sur la psychanalyse, puis pas critique. Enfin, il y a quelques textes où ça cafouille un petit peu. Il ne veut pas être avec les ennemis de la psychanalyse. Et ça, on peut le comprendre. Mais pour autant, il n'est pas non plus pour la psychanalyse. Donc il y a quelques textes de Politzer où il piétine un petit peu. Mais par la suite, cette proposition d'une psychologie concrète, qui n'est pas délirante, mais qui est véritablement concrète, à mon avis, elle est une hypothèse possible pour, je dirais pas, sortir de notre époque de l'âge d'angoisse, pas cette naïveté de croire que ça suffirait, mais pour ponctuellement bricoler dans l'incurable, c'est-à-dire régler des problèmes personnels, régler des problèmes individuels, aider des gens à être ou des gens à vivre. Ça devrait être le but de la psychologie, c'est aussi le but de la philosophie, et vous verrez qu'au bout du compte, si je fais l'éloge de la psychologie, c'est parce qu'in fine, je fais l'éloge de la philosophie. Ce que je proposerai au bout du compte, c'est qu'on puisse relire ou lire des textes de Cicéron, des textes de Sénèque, par exemple, qui sont des consolations sur la mort, sur l'amitié, sur l'amour, ou tous ces textes qui ont été écrits à l'époque et qui sont des textes de psychologie, puisque ce sont des textes qui portent l'âme, qui aident à porter l'âme. Vous voyez, votre belle question rend possible tous ces chantiers possibles et imaginables, et j'espère qu'au fur et à mesure de l'année, dans la deuxième heure, on aura l'occasion d'en ensemencer quelques-uns.
Bonsoir Michel Onfray.
Bonsoir.
Sur Freud, j'ai été très heureux de vous entendre dire que vous avez lu son dernier livre, Ma vie, la psychanalyse. C'est celui que j'ai relu, moi, 2-3 fois. Parce qu'il explique, là, combien ont été ses difficultés pour construire cette science. Il pensait que c'était une science, et comment il n'en est jamais arrivé au bout. Sur la psychanalyse elle-même, il y a un mot qui n'est pas arrivé dans votre discours, et qui explique pourtant bien de choses à propos du complexe d'Oedipe, c'est le terme de jalousie. Moi, j'ai lu dans des textes d'Henri Vallon, un médecin, psychologue, le chapitre qui figure dans Les origines du caractère chez l'enfant, qui s'appelle La jalousie chez l'enfant. Et la jalousie explique beaucoup de passages à l'acte, et en particulier le passage à l'acte meurtrier. Et s'il faut revenir à la religion, il faut aussi penser que ce qui l'a fondé, c'est le meurtre d'Abel par Caïn, ou l'inverse. Et si Caïn a tué Abel, c'est parce que Dieu avait pensé que l'un des deux était meilleur que l'autre. Et dans le poème de Victor Hugo, qui s'appelle La conscience, il a été dans la tombe et regardé Caïn, moi j'y vois l'origine de la culpabilité infinie. Et la religion repose sur cette culpabilité-là, sur le péché originel, sur la faute, sur le péché, sur le pardon, sur la rémission. Et ça, c'est la grande leçon que j'espère vous aborderez, mais je compte sur vous pour le faire, dans vos prochaines conférences. Reparler de la jalousie, repenser à Racine, repenser à Phèdre, repenser à Hippolyte, repenser à toute la tragédie grecque. Parce que quand on est dans la jalousie, on n'est plus dans le drame, qui est quelque chose d'humain, c'est Politzer qui le dit. Le drame, c'est humain. On est dans le drame du jour de notre naissance au jour de notre fin. Mais la tragédie, le fatum grec, c'est là sur quoi il faut essayer d'agir et prendre un pain d'appui pour que ça n'arrive pas. Merci d'être là, merci pour vos prochaines conférences. Elles seront certainement, comme elles l'ont été pendant tant d'années, aussi passionnantes que celle-ci.
Merci beaucoup. Sur la question de l'autobiographie chez Freud, vous savez, j'avais pensé que si on terminait un jour le séminaire de contre-histoire de la philosophie, il faudrait penser à un autre séminaire, c'est-à-dire repartir sur un grand chantier comme ça. Bon, la question, repartir par repartir, on verra, elle se posera. Mais il faut y songer quand même, il faut trouver un grand chantier. Et le grand chantier auquel j'avais songé, c'était effectivement l'autobiographie philosophique. Parce qu'elle est très ancienne. Vous voyez, des gens qui aujourd'hui, Philippe le Jeune, nous disent « Ah, ben l'invention, c'est Rousseau, etc. » Il y a de l'autobiographie dans les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, enfin, et puis même très en avant et très en amont. Donc j'avais le souci de redémarrer un grand cycle comme ça, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et de fait, il faudrait arriver à Ma vie et la psychanalyse de Freud. Et on découvre, à l'évidence, que le lieu dans lequel quelqu'un dit qu'il dit la vérité n'est pas forcément le lieu dans lequel il va dire la vérité. Si vous pensez, par exemple, que Chirac dit la vérité dans ses mémoires, hein, tout le monde a l'air à peu près d'accord, on se doute bien que si on veut faire l'histoire des deux mandats du président de la République, il faut moins le demander au président de la République lui-même qu'aux historiens qui travailleront sur des archives. Donc, à mon avis, le travail autobiographique est un travail qui masque un certain nombre de choses. Et l'intérêt, c'est ce qui est caché derrière ces choses-là. Si on prend je garde votre titre, hein, « Ma vie et la psychanalyse », Freud est en train de sculpter sa propre statue. Il explique que, finalement, il a trouvé la psychanalyse tout seul, que les cartes postales, en fait, les cartes postales, c'est lui qui les propose, en disant j'ai perdu mon père, je me mets à réfléchir parce que je suis dans une vraie douleur, travail d'introspection, je fais mon auto-analyse, je découvre un certain nombre de choses vraies, et puis d'un seul coup, je découvre qu'avec les rêves et toutes ces informations qui me renvoient à mon enfance, etc., je découvre une discipline, in fine, ça va s'appeler la psychanalyse, et finalement, je suis allé tout droit. Parce qu'à chaque fois que quelque chose peut être retenu contre moi, les épisodes de la cocaïne, on verra, les épisodes de l'électrothérapie, les épisodes de la balnéothérapie, les épisodes, etc. Enfin, tout ce qui pourrait être retenu contre moi ne peut pas l'être parce qu'à chaque fois, j'ai compris des choses. Par exemple, il traite avec l'électricité. bon, il vous donne des coups de machin dans le truc. Et donc, vous dites, est-ce que ça soigne, ça? Et Freud, il dit, oui, mais ce qui soigne, c'est la suggestion. Et il a raison, c'est vrai que la suggestion soigne. Donc, il explique que, finalement, c'est le découvreur de la psychanalyse qui va vous dire que s'il a renoncé à l'électrothérapie, c'est parce qu'il avait déjà compris que ce qui soignait, c'était, etc. Donc, vous voyez, l'illusion rétrospective du personnage qui écrit la totalité de son existence sous le signe du héros légendaire. Il naît dans une configuration particulière, c'est la huitième merveille du monde pour sa mère, et il est question d'être à la hauteur de ce désir de sa mère. Quand il est devenu Sigmund Freud, il écrit son histoire, pour expliquer, peut-être 24, je crois, quelque chose comme ça, l'autoprésentation, hein, pour expliquer qu'il est devenu ce type extrêmement important sur la planète, mais qu'il s'est battu, qu'il a eu du mal, mais que de toute façon, c'était simple, parce qu'il avait déjà compris très vite et très tôt qu'il allait être génial, et il a simplement suffi de dévider un fil qui était tout simple et tout naturel. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc il faut faire très attention à ce que Freud dit de lui-même dans les textes autobiographiques, Contribution à l'histoire de la psychanalyse, Ma vie à la psychanalyse, donc autrement autoprésentation, qui sont depuis parfois d'autres moments, c'est plein d'autobiographies, l'interprétation des rêves, plein d'autobiographies. Freud ne dit pas toujours la vérité. Il dit ce qui l'arrange, il dit ce qui permet la sculpture d'une statue extraordinaire. Quand il est étudiant, il se dit « un jour j'aurai mon buste ». Et j'aurai mon nom ici, dans cette université. Donc, toute écriture de soi est une écriture de célébration de soi-même, y compris les gens qui sont dans la détestation d'eux-mêmes, parce que c'est arrivé. Prenez les mots de Sartre. « Fais pas plus détestation de soi ». Mais alors, quel orgueil il y a dans la détestation de soi-même chez Sartre. Vous lisez les mots, vous voyez un personnage qui ne cesse de se déprécier pour qu'on puisse dire « cet homme qui est capable de penser contre soi, quel génie ». Ah bon, c'est comme l'espèce d'amour du prochain d'un certain nombre de chrétiens qui est une espèce d'amour de soi parce que l'autre est un prétexte pour gagner son paradis. On n'est pas dupe de ce genre de choses. Donc les autobiographies dans lesquelles on dit du bien de soi sont courantes et les autobiographies dans lesquelles on dit du mal de soi sont encore des occasions de dire du bien de soi. Donc c'est à l'évidence, l'autobiographie est un genre piégé. Voilà pourquoi il ne faut pas croire ce que dit Freud quand il parle dans un texte autobiographique ou ce que les autres disent. Alors il faut croire ce qu'on est susceptible de découvrir quand on a mis en perspective un texte et une biographie, et pas toutes les biographies. Vous avez des biographies dont je vous disais tout à l'heure qu'elles étaient des hagiographies, des éloges éhontés de leur modèle. Donc il faut faire ce travail-là, me semble-t-il, pour pouvoir accéder à une espèce de vérité du texte freudien. Deuxième chose, vous parliez de la jalousie. Si on est dans une logique freudienne, on va se retrouver dans la logique édipienne. Ça me paraît clair qu'on retrouvera les vieux fantasmes de Freud sur ce terrain-là. Je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment penser la jalousie à partir de l'éthologie. L'éthologie qui est, comme vous le savez, est une discipline essentielle, à mon avis, pour les psychologues, qui est cette discipline qui nous dit « regardons comment se comportent les animaux, nous aurons des leçons qui nous seront fort utiles, car nous sommes des animaux ». Il n'y a pas une différence de nature entre l'homme et l'animal, c'est la grande leçon de l'origine des espèces de Darwin en 1859. Il nous dit qu'il n'y a pas une différence entre les hommes et les animaux, ce que le christianisme nous dit. Vous avez d'un côté les hommes, de l'autre côté les animaux. Et comme l'homme est le sommet de la création, il a le pouvoir de dominer les animaux, de les tuer, de les utiliser pour se nourrir, de les utiliser pour le travail, de les maltraiter. Enfin, une justification de l'emprise et de l'empire de l'homme sur les animaux dans la logique chrétienne et sur la nature tout entière, une philosophie particulière de l'écologie, le christianisme, et avec Darwin, mais d'autres l'avaient dit avant lui, Épicure, ça démarre avec Épicure, cette tradition, Montaigne, bien sûr, qui nous dit que finalement nous sommes des animaux comme les autres. Alors un peu différents, des animaux capables de langage, de pensée, de parole, de symbolique, ce genre de choses, mais qui nous dit que finalement chez les animaux, il n'y a pas ce genre de choses aussi ailleurs, et parfois les animaux nous dépassent en entendant ce que nous n'entendons pas, des infrasons, des ultrasons, en voyant pour certains des infrarouges ou des ultras, etc., enfin des ultraviolets, des choses que le spectre, que notre œil ne nous permet pas de distinguer. Donc, il faut regarder les animaux et regarder les logiques de territoire. Il n'y a de jalousie que quand il y a des territoires. Donc vous avez un territoire, vous avez un marquage de territoire, et vous avez, comme les animaux le font, regardez les chats et les chiens comme ils se comportent, vous avez trois façons d'uriner dans un coin, et vous avez balisé le terrain, vous êtes chez vous. C'est vous le mâle dominant. Et si vous acceptez que d'autres passent, eh bien il faut que ces animaux fassent preuve qu'ils ont compris que c'était vous le mâle dominant. Donc ils sont ventre à terre, ils baissent la tête, ils ont la queue entre les jambes, comme on dit, ça marche pour les hommes aussi. Et puis vous avez des territoires qui parfois sont disputés, parce qu'il y a quelqu'un qui veut être mal dominant à la place du mal dominant, c'est ce qu'on appelle la jalousie. C'est-à-dire on dit, mais moi je veux dominer ce territoire, parce que je suis le possesseur des femelles, parce que c'est moi qui fais la loi, parce que c'est moi qui... etc. C'est la mafia, hein. La mafia, ça n'est jamais que ça. C'est la logique du territoire, du contrôle du territoire, de la maîtrise du territoire, et de ce qui va avec, la possession des biens, de l'argent, des femmes, etc. Bon. Et on est dans des logiques comme celle-ci. Nous sommes dans des territoires. Et vous avez des gens qui le savent, puis des gens qui ne le savent pas. Des gens qui ne le savent pas et qui se comportent parfois comme des animaux pris au piège d'eux-mêmes, pris au piège de leur propre animalité, et qui, de fait, sont dans la logique dont vous parliez fort justement, dans une logique criminelle ou meurtrière, au sens symbolique du terme, mais ça peut aller très loin, jusqu'au passage à l'acte, à l'évidence. Si on est sensible aux leçons de l'éthologie et qu'on sait qu'après tout, le territoire, il n'y a pas que ça dans la vie, et qu'il faut déterritorialiser, comme disaient Deleuze et Guattari, et savoir que le territoire bouge avec nous. Tout, on n'est pas tenu d'avoir des territoires qui soient des territoires enracinés. Vous avez des territoires nomades. Voilà pourquoi, troisième question, ou troisième partie de votre question, l'histoire de Caïn et Abel est une autre histoire, me semble-t-il. Votre proposition est possible ou pensable, mais n'oubliez pas que vous avez dans l'opposition Caïn et Abel l'opposition entre le nomade et le sédentaire. Vous avez l'opposition entre le personnage qui est le berger qui paie, qui va, qui vient, qui emmène ses animaux, le juif errant, d'une certaine manière, et puis celui qui est enraciné. Et c'est le combat entre ceux qui sont d'ici et ceux qui sont d'ailleurs. Ceux dont on a toujours dit que parce qu'ils étaient d'ailleurs, ils étaient de nulle part, et puis parce qu'ils étaient de nulle part, c'était des voleurs, c'était des bandits, c'était des schnappants. C'est ce qu'on a dit des Roms, des Tziganes, des Juifs, de tous les gens qui sont dans la circulation, qui posent leur campement puis qui s'en vont. Et comme on le sait, entre guillemets, c'est une plaisanterie, hein, mais évidemment, ce sont tous des voleurs de poules, parce que demain, ils sont partis. Et puis, ils n'ont pas laissé de traces. Donc l'opposition, reprenez le texte, vous verrez de l'histoire de Caïn et Abel, vous en avez un qui est un enraciné, qui est un sédentaire, et vous en avez un autre qui est le nomade. Et c'est l'enraciné qui tue le nomade. C'est donc une façon de dire quelque chose qui va beaucoup plus loin. On est toujours dans cette logique de Caïn qui tue Abel, dans cette logique de celui qui dit « je suis d'ici, je suis français, je suis un national, je suis d'ici, moi je suis là depuis toujours, je suis un Gaulois, je suis ceci ». Vous, vous êtes des étrangers, vous êtes des sans-papiers, vous êtes des fils d'Abel, vous êtes des circulants, donc vous êtes des dangereux, vous nous volez notre travail, nos femmes, notre identité, notre pays, vous nous volez tout, vous nous piquez tout, etc. Et ce désir de crime qui est là toujours, qui est là en permanence, crime symbolique, meurtre symbolique, toutes ces puissances qu'on retrouve dans l'électorat de Le Pen ou dans un électorat captif qui se retrouve parfois du côté du président de la République, etc. Enfin bon, on voit bien comment ces choses-là fonctionnent. Donc, logique de territoire, logique d'éthologie, logique d'opposition entre les nomades et les sédentaires, logique d'opposition entre les enracinés et les gens qui y vont et qui viennent. Et c'est la logique de Vichy. C'est la logique des Juifs qui sont d'ailleurs, de nulle part, de partout. Ils sont partout, mais ils sont nulle part. On les voit partout. Ils sont dans la presse, ils sont dans l'éducation, ils sont dans la finance, ils sont dans la banque, ils sont dans l'industrie, mais on ne les voit pas. Alors on vous dit, mais attendez, on va vous dire comment les repérer. Regardez leur nez, regardez leurs cheveux, regardez leur teint. On fait des expositions pour apprendre à reconnaître le Juif, à le sentir. On parle du feuilleteur judaïcum, de la puanteur juive, dans ces fameuses expositions sur l'art de reconnaître un Juif. Donc ce vieux mythe de Caïn et d'Abel, c'est un vieux mythe, hein, c'est le mythe entre le type qui est un agriculteur paysan qui lui a mis des barrières en disant « ici c'est chez moi » et « moi je travaille, je ne suis pas comme vous, qui allait et qui venait et qui volait, etc. Moi j'ai cultivé ma terre, je l'ai travaillée, je l'ai ensemencée, je fais attention, je fais mes récoltes, je garde, etc. » Ça c'est la tradition de l'enracinement, c'est Caïn qui dit « ici je suis chez moi et moi je travaille ». J'ai le sens de la terre. Et puis vous avez l'autre qui passe, et on considère que déplier son campement, replier son campement, repartir, faire paître les animaux, et puis choisir l'herbe quand elle est ailleurs, d'abord on vous vole votre herbe, mais que ce personnage-là, il est de nulle part, et que donc il est susceptible d'être un bouc émissaire. C'est celui sur lequel on va reporter toutes nos frustrations. C'est lui, c'est à cause de lui. Donc ce vieux mythe est un mythe majeur, à l'évidence, c'est un mythe essentiel pour comprendre le fonctionnement aujourd'hui d'un certain nombre de craintes, de peurs, de ce que vous appeliez la jalousie. Et on peut remettre en perspective jalousie, éthologie, territoire, enracinement dans un territoire, nomadisme dans un territoire, et penser toutes ces choses-là en n'étant pas dupe que ça n'est pas la horde primitive, le meurtre du père et puis le banquet cannibale, les thèses de Totem et Tabou hein, de Freud, qui est à l'origine de ce genre de choses, mais il y a simplement cette incapacité à aimer ce qu'on ne connaît pas, cette peur de l'étranger, de tout ce qui est étranger. C'est-à-dire qu'on est toujours inquiet quand un animal rentre dans un endroit qu'il ne connaît pas, parce qu'il n'a pas ses repères, parce qu'il n'a pas ses marques, parce qu'il n'a pas ses traces, parce qu'il n'a pas balisé avec de l'urine, des matières fécales ou avec ses glandes sudoripares. S'il n'a pas balisé son territoire, il n'est pas chez lui, il est dans l'angoisse. Il est dans la crainte, il est dans l'inquiétude, il est dans des positions d'agressivité potentielle. On en est là. Il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou que c'est pas bien, il s'agit de dire que c'est comme ça, que c'est la logique de l'éthologie. Ce qui n'est pas bien, en revanche, c'est d'exciter ça. Ce que doit faire la culture, c'est d'empêcher ça, c'est de contenir ça. Où l'on retrouve ma proposition tout à l'heure, il faut retravailler un surmoi. Il faut retravailler la constitution du surmoi, qui ne soit pas un surmoi répressif, un surmoi de flic autoritaire, un surmoi fascistoïde ou ce genre de choses. Non, mais qui soit un surmoi qui rende possible la vie ensemble, la vie en commun, et que nous soyons susceptibles d'être enracinés, mais que nous acceptions les nomades, que nous puissions vivre comme Caïn, mais que nous acceptions qu'Abel puisse exister aussi. Ça, ce sont des projets de société qui font que vous avez raison de réactiver la question de la jalousie comme une question majeure. Lagache avait travaillé là-dessus et avait publié des beaux livres. Mais il me semble que cette jalousie est moins une affaire de personnel individuel entre soi et soi, et plutôt une affaire qui a à voir entre soi et les autres, et surtout soi et les autres et le cosmos, soi et les autres et le territoire, soi et les autres et la géographie. Parce que le rapport que nous entretenons avec la géographie est générateur d'une histoire dont nous sommes responsables. Et cette histoire dont nous sommes responsables, il nous faut la faire. Et l'idée d'entreprendre ce voyage en psychanalyse est l'occasion, me semble-t-il, d'effectuer mieux ce voyage.
Vous déclarez que la clé du neuf relève de la biographie. Est-ce que votre pensée de philosophe a été influencée par votre propre vie ?
Ah non, moi, pour moi, ça ne marche pas. Tous les autres, mais moi, non, pas du tout. Moi, j'entretiens des relations intimes avec le ciel intelligible, avec les idées pures. Oui, évidemment, moi aussi, pour moi aussi, ça marche. Parce que si ça marche... Mais ça marche pour tout le monde. C'est-à-dire que ça marche aussi pour des musiciens, ça marche aussi pour des peintres, ça marche aussi pour des écrivains, etc. C'est-à-dire que c'est pas seulement... Il n'y a pas une extraterritorialité du philosophe qui supposerait que ça marcherait pour le philosophe et puis point à la ligne. Non, c'est la création qui est là. C'est la création qui est dans cette aventure. Mais c'est la constitution d'une vision du monde aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être... Vous avez, chacun d'entre vous, à sa philosophie ici, au sens premier du terme. C'est-à-dire une vision du monde, une conception des choses, un rapport à son corps, au corps des autres, à l'amour, à la mort, à la guerre, à la douleur, à la souffrance, à l'angoisse, etc. Enfin, chacun dispose d'une vision du monde. Pour aller vite, disons ça comme ça. C'est ce que dit Freud, d'ailleurs. Freud dit, un philosophe, c'est quelqu'un qui propose une vision du monde. La fameuse Weltanschauung des Allemands, c'est un concept intéressant. Nous, on a, pour traduire ce mot, on a conception du monde, bon, une vision du monde, une proposition de lecture du monde. Mais c'est le cas de tout un chacun. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans votre voiture, que vous avez laissé France Musique branchée, par exemple, et que vous entendez une musique, vous ne savez pas qui c'est parce que vous venez de mettre le contact, il y a 3 mesures de Haydn, ou 3 mesures de Mozart, et vous allez savoir que c'est Mozart. Vous pouvez même ne pas connaître l'œuvre, vous saurez que c'est Mozart. Si vous connaissez un peu la musique, s'il y a une petite touche, vous pouvez hésiter entre les deux, Mozart et Haydn, s'il y a une petite touche de mort en plus, c'est Mozart, c'est pas Haydn. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le style. C'est le style qui fait que vous allez, à l'oreille, comme ça, quelques mesures, dire « ça c'est Mozart, ça c'est Beethoven, ça c'est Schubert, ça c'est Schumann ». Vous avez des gens comme ça pour lesquels c'est facile. Wagner, etc. Parfois, il y a des morceaux de Strauss qui peuvent vous donner l'impression que c'est aussi du Wagner, mais ça ne dure pas longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il y a un style. Et le style, c'est le corps, c'est la chair, c'est la production d'une autobiographie, c'est ce qui fait que quoi que vous fassiez, si vous êtes Mozart, vous ne composez pas comme Haydn, c'est clair. Et vous pouvez aussi, dans un musée, quand vous avancez à 50 mètres, voir de loin une peinture, et vous dire que c'est un, je ne sais pas quoi, comment aller chercher, si on est à 50 mètres, il en faut vraiment qu'il tienne le coup. Un gréco, par exemple. Un gréco à 50 mètres, vous le reconnaissez. Alors, vous pouvez avoir du néo-gréco, bien sûr, mais vous le savez. Pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce d'étirement ? Pourquoi il y a un traitement du corps comme une espèce de flamme, comme ça, qui s'en va vers le ciel qui est... Bon, vous avez effectivement, pour chacun, et vous êtes tout un chacun ici a quelque chose de Mozart, de Haydn, du Gréco, je ne sais quoi, parce que vous avez des styles, des façons d'être, des façons de penser. Et tout ça procède évidemment d'une biographie, d'une autobiographie. C'est vrai, c'est étonnant qu'on ait eu besoin de Nietzsche pour le dire aussi clairement. On ne le dit pas avant, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, le corps, la chair, la biographie, la matérialité d'un être, l'histoire, disons-le comme ça, c'est pas intéressant. C'est quand on fait de l'histoire de la philosophie, la plupart du temps, on fait de l'histoire des systèmes philosophiques. Geroult a écrit sur ce sujet-là des gros livres, des choses extrêmement intéressantes sur l'histoire de la philosophie. C'est intéressant d'écrire des livres d'histoire sur la façon qu'ont les gens d'écrire les livres d'histoire. Ça me paraît extrêmement intéressant. Mais jamais on essaie de voir comment s'articule une pensée, une œuvre, une biographie, une existence particulière, c'est-à-dire un père, une mère, etc., etc. On pourrait même le faire avec les psychanalystes. Je vais le faire cette année avec Freud. Mais Adler, par exemple, la théorie d'Adler, elle est très simple. Lui considère que ce n'est pas l'affaire du complexe d'Édipe qui est en jeu, qu'on n'est pas tous dans le désir de coucher avec sa mère et dans le désir de tuer son propre père, et qu'il y a autre chose. Et lui parle d'une infériorité d'organes. C'est quoi l'infériorité d'organes ? C'est le fait que quelque chose pourrait vous faire apparaître aux yeux d'autrui comme quelqu'un qui serait inférieur. Vous êtes petit, vous êtes mal fichu, je ne vais pas parler du président de la République, mais je dirais... Par exemple, il parle du nain devant le géant, dit Adler. Je parle d'Adler, hein, je ne parle plus de l'autre. Et il nous dit, et on est un peu dans une logique nietzschéenne, pourquoi il émet en Nietzsche Adler ? Il nous dit... Un être qui ressent une infériorité d'organes, il va être dans la compensation de cette infériorité d'organes. On dit, bah, évident, élémentaire, etc. Vous creusez un petit peu la biographie d'Adler, il était rachitique, lui, Adler. On peut trouver normal qu'un petit garçon qui sera apparu comme un rachitique aux yeux de ses petits camarades à l'école ait pu construire toute une théorie qui n'aura rien à voir avec le complexe d'Édipe, parce que le complexe d'Édipe, c'est l'affaire de Freud. Vous verrez, je vous raconterai ça dans le détail, mais quand vous lisez la correspondance avec Fliess, le complexe d'Édipe, il découvre comment Freud, il ne le découvre pas par une observation qui serait générale, universelle, etc. Non, il dit, entre telle date et telle date, j'ai fait un voyage avec ma mère dans le train, et comme on a fait ce voyage, on a passé la nuit dans le train, je n'ai pas pu ne pas voir ma mère nue. Je n'ai pas pu ne pas voir ma mère nue. C'est une hypothèse. Il ne dit pas, je l'ai vu, j'ai vu maman à poil, et voilà ce que ça m'a fait. Non, il dit, je n'ai pas pu ne pas la voir nue. Donc, je n'ai pas pu ne pas la désirer. Tu rêves, mon garçon. C'est ton désir, mais ça n'a même pas eu lieu. Donc, qu'est-ce que ça peut bien signifier ? Et il construit tout ça là-dessus. Phylogénèse, plasma germinal, et totem et tabou, et tout le tralala. Il va vous expliquer que c'est votre cas à tous ici, dans cette salle. Tout le monde a ce désir-là. Il y a des moments où c'est tellement bien dit, par l'autorité, tout le monde vous fait savoir, vous dites, bah, ça doit être vrai. Et comme vous pensez que c'est vrai, vous finissez par trouver des explications. Vous dites, bah oui. Un garçon, j'aime bien ma maman. Ah bah ouais, c'est dit bien. Non, ça peut être beaucoup plus simple que ça. On peut aimer des gens parce que le fait d'être père ou mère, ça c'est pas dirimant, c'est pas grave. Et on peut les aimer, mais on peut aussi ne pas les aimer. Alors la logique freudienne vous dire ah vous n'aimez pas votre mère, c'est la preuve que vous refoulez votre désir de coucher avec elle. Alors dans ces cas-là, vous dites ah bah oui, je l'ai effectivement. Parce que si je l'aime, je l'aime. Si je l'aime pas, c'est que je l'aime encore plus. Donc je l'aime. Et il y a cette logique qui fait que, finalement, vous êtes dans une espèce de théorie universelle qui vous impressionne, alors que vous êtes dans une manifestation particulière d'un individu qui prend ses désirs pour la réalité. Disons-le comme ça, Freud prend ses désirs pour la réalité. Et quand on est dans la logique d'Adler, c'est la même chose. Il est dans cette logique, lui, du petit garçon qui expérimente un corps souffreteux, et il construit toute une théorie sur la compensation de l'infériorité d'organes. Et Jung, c'est la même chose. Lui qui voit des soucoupes volantes, qui discute avec les dieux et tout ça, enfin qui est dans des logiques d'archétypes, bah, il va construire toute sa pensée aussi à partir de ça. Toutes les pensées sont autobiographiques. Toutes les œuvres sont autobiographiques. Tous les gestes politiques. On pourrait faire une psychobiographie du général de Gaulle ou une psychobiographie de Mitterrand pour prendre un héros et quelqu'un qui n'en est pas un. C'est pour que deux ou trois personnes râlent un peu dans la salle, mais... Facile à faire. Vous prenez l'enfance, vous prenez un certain nombre de choses, puis vous allez trouver des choses. La haine, par exemple, Mitterrand qui a eu toutes les idées du monde, il les a toutes eues. Il n'y en a qu'une qu'il a toujours eue, la haine de De Gaulle. Jamais vous ne le surprendrez là-dessus, il l'a toujours détesté. Intéressant quand même. Qu'un personnage qui a changé d'idées sur tous les sujets, qui a démarré à la Francisque, qui a fini au Parti Socialiste, etc., puisse dire à celui-là, je le déteste. Tout le temps. Et vous dites, intéressant, quand même, la fameuse infériorité d'organe, elle n'a rien à voir avec sa taille, encore que, mais elle a à voir avec la taille historique. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Vous avez rencontré l'histoire de face, et puis vous avez quelqu'un en face qui n'a rien rencontré. Même quand l'histoire était en face, il est passé à côté. Donc, de fait, on peut comprendre que dans la gestion d'une nation, par exemple, vous ayez pu procéder comme vous avez procédé en étant celui-ci, celui-là ou d'autre. L'enfance, le milieu sont déterminants dans la production des idées qu'on a, à l'évidence. Mais j'ai presque honte de répondre de cette manière-là, parce que ça devrait être évident. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette idée qu'on ait besoin de faire la démonstration aujourd'hui que toute pensée est autobiographique ? Il en a fallu de la misère pour qu'on ait refoulé ça, au point de croire qu'il y aurait des pensées qui ne seraient pas autobiographiques. Donc on aurait des cerveaux qui seraient en relation avec l'empiré des idées pures et des concepts, et que le philosophe, c'est quelqu'un qui n'aurait pas de corps. Ça a produit des effets jusque dans les années 70. Le structuralisme, ça a été ça. L'idée qu'il n'y a pas de corps, l'idée qu'il n'y a pas d'histoire, l'idée qu'il n'y a pas d'incarnation dans la réalité. Il y a des structures dures, perdures. Dans le cerveau de l'homme, il y aurait des structures qui seraient les mêmes, que vous soyez dans la Sibérie orientale, que vous soyez dans un pays d'Afrique noire, que vous soyez dans un moment de la préhistoire ou dans un moment d'aujourd'hui ou ce genre de choses. Il y aurait des structures pérennes. Où ? Quand ? Comment ? C'est où ? Elles sont où ces structures ? C'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que c'est ? Des mythologies qui seraient semblables, etc. Alors évidemment, on dit, mais oui, mais regardez, on a un mythe amérindien, regardez ce mythe, il correspond à un mythe scandinave qui lui-même correspond à un mythe grec, donc c'est bien la preuve que les structures sont semblables. On oublie le fait que les mythes, dans les sociétés orales et traditionnelles, sont rapportés par des gens qui les écrivent dans la culture qui est la leur, les rapportent dans la langue qui est la leur, et qu'on n'est jamais vraiment très sûr que les choses auraient été dites comme elles auraient été dites. Il y a toujours un tiers qui est là, même soi-même, quand on parle la langue des gens qu'on interroge, on n'est pas dans la logique de la langue maternelle, dans la langue qui est celle de l'enfance, dans la langue qui a structuré le cerveau, qui comprend. Donc on peut expliquer que le structuralisme ait pu produire des effets, mais il a produit des effets de haine de l'histoire, de haine du contexte. C'était texte sans contexte. Nombre de gens qui ont fait des études à l'université sous la férule de quelques professeurs de littérature qui faisaient du structuralisme disaient « mais peu importe la signature, quel intérêt que le texte de Michelet ait été écrit au XIXe siècle ? Pas besoin de savoir qui est Michelet, pas besoin de savoir le siècle, pas besoin de savoir le contexte, pas besoin de savoir d'où ça sort, pas besoin de savoir ce qu'est ce livre, à quoi répond ce livre, il n'y a pas d'inscription dans l'histoire, vous avez un texte et il fonctionne de lui-même. Cherchez à l'intérieur les structures narratives ou ce genre de choses. Le contraire de la biographie. » On a eu ça avec Proust et Sainte-Beuve, le fameux contre-Sainte-Beuve de Proust, qui supposerait qu'il y aurait 2 mois. 1 mois qui écrirait La recherche du temps perdu, puis 1 mois qui n'aurait rien à voir. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Non, il y a des mois à facettes, mais c'est le même mois. Et cette idée que défendait Sainte-Beuve était une idée intéressante. Quand Sainte-Beuve dit, voilà, je pense l'œuvre qui m'est proposée, La mare au diable, François Le Champy, ou je ne sais quoi, quand il fait une analyse de Georges Sand, je pense, dit Sainte-Beuve, ce qu'elle écrit en fonction de ce qu'elle vit et je vois l'articulation, etc., eh bien, vous avez des propositions lumineuses. Il faut revenir à Sainte-Beuve. Et il faut en finir avec le contre-Sainte-Beuve de Proust qui supposerait effectivement que la biographie serait sans intérêt, que l'histoire serait sans intérêt, que le contexte serait sans intérêt et qu'on n'aurait pas besoin de savoir qui et quoi, etc. Alors, ça, c'est un premier excès. Il y aurait un deuxième excès, qui serait l'excès qui consisterait à penser que l'œuvre d'un individu se réduirait à la biographie que pourrait en écrire un biographe américain. Je dis biographe américain parce que les Américains sont des gens qui font des biographies de 1000 pages dans lesquelles vous avez tout et vous savez tout. Et puis vous avez une biographie de Nietzsche qui fait comme ça 3 volumes, on a 1500 pages. Et vous savez quand Nietzsche achète une cocotte minute, combien de saucisses sa mère lui a envoyées, quand est-ce qu'il descend du train, quand il arrive à Bâle, quand est-ce que... Enfin, on sait tout ça. Des moments où vous avez envie de dire, mais oui, alors ? Non, ça peut toujours intéresser quelqu'un qui, lui, peut faire quelque chose de ça. Donc on peut avoir des biographies, ça n'est pas tout. Ce que Nietzsche dit dans cette lettre que reprend Lou Salomé dans sa biographie de Nietzsche, biographie au sens nietzschien du terme, elle fait vraiment une biographie critique de Nietzsche. Ce qu'elle nous dit, Lou, et ce que nous dit Nietzsche dans cette aventure, c'est qu'effectivement, il y a un moment où on peut imaginer que tel système sera dépassé. Nietzsche nous dit, le platonisme, ça a marché pour Platon. Le platonisme est susceptible d'être dépassé, mais Platon est impossible à dépasser. L'homme Platon, nous dit Nietzsche. Ce que je vais vous proposer cette année avec Freud, c'est un peu ça. C'est-à-dire de montrer que c'est une construction faite par Freud pour vivre, pour survivre, avec ses fantasmes, avec ses craintes, ses angoisses, ses inquiétudes, avec sa névrose. Il crée cette aventure, qui est une psychologie littéraire dont il veut qu'elle soit une psychanalyse scientifique et définitive. Donc quand vous aurez vu tout ça, vous verrez, vous ferez vous-même votre travail critique en disant « je prends pas », etc. Et on pourra reprendre cette phrase de Nietzsche ou cette lettre de Nietzsche et dire ben, « effectivement, le freudisme est dépassé ». Mais Freud est indépassable. C'est-à-dire la figure du personnage qui a produit cette configuration intellectuelle, le freudisme, et qui a produit des effets sur la planète, parce que ça c'est un autre livre, c'est un autre cours qu'il faudrait faire aussi. Comment se fait-il qu'on peut, à partir de son propre fantasme, générer une discipline qui fonctionne sur tous les continents? Bon, de moins en moins, en France ça marche encore très bien, mais de moins en moins, et puis bon, ça passe et ça disparaît, mais qu'est-ce qui fait qu'il y aura eu cette mode du freudisme? Qu'est-ce qui fait qu'il y aura eu cette mode du positivisme d'Auguste Comte, que plus personne ne connaît aujourd'hui? Il y a eu une époque où tout le monde était positiviste, où on était conscient en France, où Auguste Comte, c'était... Il n'y a plus que Régis Debray pour se réclamer d'Auguste Comte aujourd'hui. Non, mais je le dis sérieusement, rigolez pas. C'est important, Auguste Comte, c'est une philosophie importante. Même chose avec le freudisme, avec la psychanalyse. Et puis avec, mais là je mets un point et je vais à la ligne, mais avec mon travail, qui bien sûr est lui aussi éminemment enraciné, incarné. Si je n'avais eu ce père, cette mère, cette enfance, ce milieu dans cette époque, si je n'avais eu des expériences particulières avec la famille, ma famille, si je n'avais eu cette absence de grand-père, de grand-mère, parce que mon père était un vieux papa et que je n'ai pas connu ses grands-parents, puis que ma mère était de l'assistance publique, que je n'ai pas connu les grands-parents, si. Évidemment, on peut reconstruire tout ça. Il faut faire ce travail-là, mais on n'aura pas tout dit non plus pour autant. C'est-à-dire que quand on aura mis en perspective une pensée avec une biographie, une autobiographie, qu'on aura montré comment ça fonctionne, on pourra aimer ou ne pas aimer. Merci beaucoup.
C'était les conférences de l'Université populaire de Michel Onfray. Régisseur au Centre dramatique national de Normandie, Philippe Petit. Prise de son, Patrick Chanteclair, France Bleu Basse Normandie. Mixage, Jean-Michel Coqui. Réalisation, Véronique Villa. Lundi, un roman familial extravagant. We'll be right back.